Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc merci à tous et à toutes d'être là pour cette nouvelle rencontre des livres en dialogue. Alors les livres en dialogue sont un cycle de rencontres dédié aux nouvelles parutions des éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, qui associe donc les auteurs et les autrices des ouvrages à des journalistes. Cette séance étant enregistrée en direct, nous vous serions bien reconnaissants de couper vos micros et vos caméras. Vous pourrez revoir cette conversation d'ici quelques jours sur la plateforme Canalu ou sur le site de la FMSH. Je vous informe que la seconde partie de la rencontre sera consacrée aux questions. Vous pouvez à tout moment poser vos questions par écrit dans l'espace conversation en les adressant à Charlotte Recoquillon. Alors, aujourd'hui, les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme ont le plaisir de vous présenter l'ouvrage Racisme et jeux vidéo de Mehdi Derfoufi, paru le 6 mai dans la collection Intervention. Il est d'ores et déjà disponible en librairie et en ligne sur lcdpu.fr. Pour en parler, nous avons invité l'auteur Mehdi Derfoufi à s'entretenir avec la journaliste et chercheuse Charlotte Recoquillon. Mehdi Derfoufi est enseignant-chercheur en études postcoloniales, culturelles et de genre à l'Université Paris 8. Charlotte Recoquillon est chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique et journaliste spécialisée des États-Unis. Elle a notamment réalisé un podcast sur les violences policières intitulé Stop Killing Us. Je vais donc laisser la parole à Charlotte pour lancer cette conversation.
Bonsoir à tous, enfin bonjour, bonsoir. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Merci à la Fondation de m'avoir invité à dialoguer avec Mehdi Derfoufi pour cet ouvrage que j'ai eu le plaisir de découvrir, de lire, de dévorer. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de notes. C'est un ouvrage très stimulant. Je vais vous présenter brièvement cet ouvrage et puis ensuite. Ensuite, je dialoguerai quelques instants avec Mehdi Derfoufi avant de vous laisser poser des questions. Alors, c'est un ouvrage qui s'ouvre sur une préface de Maxime Servulle, qui est très utile pour replacer d'emblée le livre dans le champ des études sur le jeu vidéo. Je précise juste que Maxime Servulle est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et directeur du Centre d'études sur les médias et les technologies et l'internationalisation. Il est notamment l'auteur du livre Dans le blanc des yeux, diversité, racisme et médias. Voilà, donc l'objet de ce livre, Racisme et jeux vidéo, entend dépasser la critique antiraciste qui traditionnellement, enfin historiquement, centrée sur les contenus, donc les contenus à la fois par les stéréotypes véhiculés, donc d'une part, et aussi par les récits qu'ils élaborent, d'autre part. Donc les stéréotypes et les contenus ne font pas tout, et on le voit bien au fil des exemples égrenés tout au long du livre. Il faut aussi s'intéresser au public et à leur capacité de résistance, d'interprétation, de modulation, et ne pas oublier les contextes sociaux, à la fois de réception et de production des jeux vidéo. Nous sommes aussi invités à nous interroger sur tout ce qui est de l'ordre du non-dit, de l'absence, de l'invisible, qui en dit autant que ce qui est contenu et dit dans les jeux vidéo. Donc, pour expliquer et comprendre tout cela, l'auteur analyse l'activité vidéoludique dans des logiques de racialisation et nous dit que loin d'être un simple divertissement, alors auquel quand même 3 milliards de personnes s'adonnent, donc ça pourrait quand même déjà justifier qu'il y ait plus d'études sur ce sujet. Mais bon, au-delà d'être un simple divertissement, Mehdi Derfoufi souligne la charge politique du jeu vidéo et les rapports de force géopolitique qui s'y jouent, qui s'y expriment dans les contextes donc à la fois sociaux et politiques de production et de réception, comme je viens de le mentionner. Et tout au long du livre, on est dans un va-et-vient constant. On voit comment le jeu vidéo est à la fois le reflet des rapports sociaux et des logiques de domination, mais étant aussi prescripteur, voilà, ça souligne à quel point il y a un enjeu à l'analyser et peut-être y déconstruire ces rapports de domination. Donc, comme d'autres espaces contemporains, le jeu vidéo est donc un lieu où s'expriment les conflictualités contemporaines, notamment celles autour des identités sexuelles et raciales. Les joueurs et les joueuses ne forment pas une communauté ou un ghetto qui serait coupé du monde et du réel, mais constituent au contraire une arène sociale où se rejouent ces rapports sociaux. Donc, dans cet ouvrage, Mehdi Darfu met en dialogue les recherches sur le jeu vidéo et les cultural studies, les études postcoloniales et décoloniales, pour interroger notamment la colonialité dans l'industrie vidéoludique. Et nous allons en discuter, revenir sur ces thématiques. Ce livre attaque le sujet par de nombreux angles, les logiques socio-historiques de racialisation en amont et en aval de l'industrie, les représentations dans la narration et le gameplay ou l'esthétique. On passe aussi en revue les productions pardon, des périphéries, entre guillemets. On s'intéresse aux joueurs et aux joueuses dans leurs identités de genre, de race, un peu moins souvent de classe, mais Mehdi Darfi nous le reprécisera si besoin, mais explique que ça nous aurait fait déborder du champ de l'analyse, mais qu'évidemment, c'est un facteur crucial également. Donc, tous les angles sont toujours pris de manière politique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas figés, mais sont vraiment interprétés dans le cadre de rapports de force et de domination politique situés et sont pensés comme des jalons pour une histoire postcoloniale et décoloniale du jeu vidéo. Alors, du point de vue de l'organisation de l'ouvrage, l'introduction fait une historiographie du jeu vidéo et pose les concepts qui seront ensuite utiles aux lectrices et aux lecteurs. Elle est suivie de 7 chapitres et d'une courte conclusion qui souligne ce qui aurait pu être ajouté et l'ampleur de ce qu'il reste à faire dans le champ des études vidéoludiques postcoloniales et décoloniales. C'est un ouvrage qui, à mon sens, s'adresse à 2 larges publics, celles et ceux qui aiment le jeu vidéo et jouent, et veulent des outils pour le penser et le comprendre dans un ancrage définitivement contemporain. Et puis, celles et ceux qui s'intéressent plus particulièrement aux questions raciales et sociales, qui ne connaîtraient pas forcément le champ du jeu vidéo, mais qui trouveront dans cette étude, une étude de cas, une illustration stimulante et originale. Pour ces 2 publics, l'ouvrage est accessible et facile à lire. Les arguments sont illustrés par des exemples très concrets de scènes de jeu, de personnages, les studios de création, les récits des polémiques et des controverses ou les propos de joueurs et de joueuses. Donc c'est un procédé bienvenu, toutes ces illustrations et ces exemples, et c'est très efficace. Le livre comporte également un glossaire très utile pour les personnes qui ne seraient pas familières du jeu vidéo. On y apprend notamment ce qu'est le gameplay, qui sont les personnages non joueurs, qu'est-ce que la norme triple A, etc. Quant aux lectrices et aux lecteurs plus familiers, plus spécialistes de la question, l'ouvrage fait un état de la littérature et un examen de nombreuses références qui sont extrêmement utiles et qui le rendront aussi incontournable pour les spécialistes. Je voudrais aussi noter quelque chose qui m'a paru important, c'est le recours à l'écriture inclusive pendant tout l'ouvrage, ce qui, à mon sens, souligne la cohérence de l'auteur avec ses propos et son objectif de décoloniser le jeu vidéo. Et à titre d'exemple de l'importance de cette pratique de l'écriture inclusive, la mention systématique des joueuses à côté des joueurs aide vraiment à construire une représentation mentale plus diverse de la communauté vidéoludique. Et puis, je précise pour celles et ceux que ça pourrait effrayer que l'écriture inclusive ne gêne pas du tout la lecture et au contraire l'enrichit, à mon sens, beaucoup. Je tenais à le souligner parce que comme ce n'est pas encore une pratique extrêmement répandue, c'est voilà, un exemple de quand on le fait, c'est efficace en fait et ça enrichit la lecture et le propos et les enjeux de l'ouvrage. Donc pour cette discussion aujourd'hui, nous allons cheminer à travers quelques-unes seulement des thématiques abordées par Mehdi Darfoufi, sans pouvoir, vu le temps imparti, en faire le tour complètement, mais je vous invite à vous plonger dans cette lecture stimulante pour contrer la frustration le cas échéant. Donc, pour commencer, Mehdi Darfoufi, peut-être juste avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce livre? Vous écrivez, page 47, que le projet initial est né d'un questionnement sur l'histoire du jeu vidéo, mais pourquoi ce questionnement en premier lieu? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous y intéresser dès le départ?
Alors, merci Charlotte, tout d'abord, pour cette présentation très généreuse et précise. Et merci à toute l'équipe de la Fondation et des éditions de la Maison des sciences de l'homme qui, voilà, qui se démène pour faire connaître ce livre. Alors, sur la motivation de cet ouvrage, eh bien, il s'agit avant tout d'un livre d'intervention. Et il a été conçu comme cela, ce qui fait qu'effectivement, j'ai construit le livre avec une série de propositions qui sont supposées couvrir un ensemble de thématiques assez larges. Alors, il y aura certainement des frustrations parce que voilà, on pourra trouver qu'il manque des choses, et il manque toujours des choses, mais c'est avant tout un livre d'intervention qui a une ambition programmatique. Dans un contexte français où il est toujours très difficile et très clivant de poser les questions de conflictualité raciale, de questionner le racisme systémique, qu'il s'agisse des jeux vidéo ou d'autres champs. Alors évidemment, le choix du jeu vidéo n'est pas anodin. Enfin, il y a une conjonction de choses. D'abord, un intérêt personnel, parce que, bon, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai commencé à jouer un petit peu aux jeux vidéo à la fin des années 70, au début des années 80, avec Pong, puis après les Game & Watch dans la cour de récréation au Maroc. Et donc, forcément, ça fait partie simplement de ma culture, voilà, de mon champ culturel, au même titre que le cinéma, la littérature, la bande dessinée, la musique, etc. Donc, un intérêt personnel, et je suis revenu d'ailleurs aux jeux vidéo en tant que joueur. J'avais abandonné un petit peu au profit des jeux de rôle sur table, et j'y suis un petit peu revenu au début des années 2000, et ce n'est pas par hasard. Hein. C'est aussi un moment où les consoles de salon se diffusent. On pourra évoquer la question des plateformes. Donc ça, bon, à titre un intérêt personnel, mais aussi du fait de mes travaux de longue date, d'abord en tant que critique de cinéma, en tant que formateur, responsable de salle de cinéma, et puis enseignant-chercheur. J'ai travaillé les questions de genre et les questions raciales de longue date. Et donc, tout naturellement, le jeu vidéo fait partie de l'univers culturel et contemporain. Et j'ai voulu, en lui accordant ici un intérêt à part entière, j'ai voulu aussi poser le débat à deux niveaux. D'abord, pour le champ académique, de façon à indiquer à la fois les manques, les impasses. Hein, les Game Studies aujourd'hui à l'université connaissent un certain développement, pas tellement une institutionnalisation, mais la communauté de chercheuses et chercheurs en jeux vidéo en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, et donc dans tous ces espaces francophones, est vraiment très dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se font, etc., mais il y a encore un défaut d'institutionnalisation de ces recherches à l'université. Bon, ce qui a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, la façon dont le jeu vidéo rentre à l'université a tendance à ignorer les questions raciales. Si vous observez les manifestations autour du jeu vidéo, les séminaires ou les colloques qu'il peut y avoir, ils ne sont pas non plus légion, les questions raciales restent souvent absentes et on va davantage s'intéresser aux dimensions économiques, de production, un petit peu de sociologie des publics, un petit peu de genre, voilà. Mais, et puis les questions esthétiques, artistiques autour du jeu vidéo. Mais les questions raciales restent absentes, alors même qu'on le voit dans les débats au quotidien, les débats de société, ce sont des enjeux très, 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 très forts. Donc, il s'agissait d'abord de poser, vous l'avez dit, notamment en citant abondamment les travaux qui existent déjà, principalement dans l'espace anglophone. Il s'agissait de poser la nécessité, vraiment, quand on parle des jeux vidéo, d'intégrer cette dimension à part entière, parce qu'on loupe à peu près l'essentiel de ce qui fait l'intérêt des joueurs et des joueuses pour les jeux vidéo lorsqu'on ne parle plus de genre, lorsqu'on ne parle plus de sexualité, lorsqu'on ne parle plus de questions raciales. Et ensuite, en tant que livre d'intervention, il s'agissait aussi de pouvoir faire une intervention dans le débat public sur le jeu vidéo, sortir hein, de ce qui subsiste malgré tout dans le monde éducatif, du rapport au jeu vidéo un petit peu, soit comme un outil pour éduquer, soit au contraire comme un repoussoir parce qu'il y a des paniques morales voilà, autour du jeu vidéo. Alors ça reste quand même hein, en filigrane, et il s'agissait de faire un livre d'intervention qu'on puisse s'approprier aussi pour pouvoir, dans des actions, de programmation artistique ou des actions éducatives, penser le jeu vidéo et le rapport des publics au jeu à travers justement la question des enjeux ethno-raciaux.
Et ce que vous venez de dire conforte l'idée qu'on a, enfin le ressenti qu'on a hein, pendant tout le livre, qui est l'extrême connexion et interpénétration du jeu vidéo et de la société et tous les débats qui existent dans la société et sur les questions raciales. C'est vrai que la modernisation actuelle de la façon de penser la question des rapports sociaux de race et de genre et de classe apparaît aussi donc dans le jeu vidéo. D'ailleurs, vous commencez directement le livre par un premier chapitre qui s'intitule « Décoloniser le jeu vidéo ». Peut-être que, avant de parler de comment on décolonise le jeu vidéo, peut-être est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont la colonialité s'y exprime dans un premier temps. Vous citez abondamment des exemples, vous pouvez peut-être en reprendre quelques-uns.
Oui, alors bon, sur cette notion de colonialité, peut-être aussi en dire rapidement un mot. Bon, je ne sais pas si tout le monde est familier, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui le sont, mais sait-on jamais. Bon, c'est un petit peu l'idée, si vous voulez, que la modernité occidentale se constitue à partir de cette rupture de 1492. Christophe Colomb, etc., et tout ce qui en découle, et qu'on est toujours aujourd'hui dans des systèmes, des rapports sociaux qui sont hérités finalement de cette construction de la modernité occidentale. Alors, pas seulement sur les questions raciales, mais aussi sur les questions de genre, sur les questions de pouvoir étatique, par exemple, etc., et de savoir, de constitution du savoir. Donc, le jeu vidéo prend place dans une histoire bien particulière, il prend place dans l'histoire de l'informatique et la façon dont cette émergence technologique est rapidement associée à une sorte de progrès qui représenterait en fait la quintessence de la supériorité occidentale. En termes de maîtrise, en termes de rationalité, etc., etc. Et le jeu vidéo accompagne cette histoire au même titre que le cinéma aussi a accompagné cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu finalement questionné et étudié de façon historiographique et de façon aussi systématique. C'est le rapport entre l'essor de ces technologies, de ces dispositifs, le développement de l'impérialisme occidental et finalement du capitalisme global, la situation où nous sommes aujourd'hui. Donc, quand questionner la colonialité du jeu vidéo, nécessairement, ça va renvoyer dans ce chapitre qui est un petit peu théorique, ça va renvoyer à la nécessité de questionner pas seulement la question des représentations, mais aussi la question de qu'est-ce que c'est que ce dispositif, finalement. Au même titre que le cinéma, le jeu vidéo est un dispositif technologique avec ses spécificités. Est-il vraiment possible de produire quelque chose qui échappe totalement et qui s'émancipe de ce modèle de la modernité et de la colonialité à travers un dispositif qui lui-même est né de cette colonialité et de cette modernité. Donc déjà, hein, ça c'est une question que je ne résous pas dans le livre parce qu'il faudrait vraiment travailler sérieusement la
vous
question.
Vous mentionnez à plusieurs reprises que les même penser les périphéries, c'est pour ça que je précisais des guillemets à périphérie tout à l'heure, parce que même on considère comme subalterne ou périphérique ou marginal des pratiques des lieux de production ou des créations mais qui sont marginales ou périphériques par rapport à un centre qui, en fait, lui-même est arbitrairement, enfin, arbitrairement, qui est le fruit d'une histoire de domination que vous venez de mentionner.
Bien sûr, et d'autant que les discours critiques, l'essentiel des discours critiques qui sont produits précisément sur le jeu vidéo et les représentations hégémoniques, par exemple, bah, c'est produit, ça reste produit en Occident, malgré tout. Donc, on est aussi, voilà, on a à gérer, on a à faire, mais c'est normal, c'est de l'héritage aussi de siècles, voilà, de domination et d'hégémonie occidentale. Donc la question qui va se poser, ça va être à partir de ce questionnement sur le dispositif, quelles sont les marges, quelles sont les capacités à construire des espaces critiques, des espaces qui vont pouvoir peu ou prou reconstruire des perspectives décoloniales. Alors, c'est sans doute ce qui manque le plus dans le livre, c'est-à-dire un travail sur les publics et les pratiques des publics, un travail documenté, systématique, précis, etc. Mais c'est un, évidemment, on s'en doute, c'est un ouvrage à part entière et c'est surtout des recherches qu'il faut mener. Alors, bon, par exemple, on peut citer le travail en cours d'Isabelle Arvers. Voilà, qui fait un tour du monde pour identifier aussi des productions, je la cite dans le livre, hein, des productions, disons, qui se jouent dans le sud global. Mais il faudrait aussi voir tout ce que les diasporas produisent au sein des pays occidentaux et surtout les pratiques, les façons de jouer qui finalement en disent beaucoup sur, comment dire, sur la façon dont on pourrait reconstruire des perspectives un petit peu différentes, et davantage que l'analyse des représentations qui occupent l'essentiel du livre.
Vous prenez l'exemple à un moment donné de la langue, et c'est un moment de réflexion assez stimulant pour justement, alors là aussi, qu'on ne résout pas nécessairement, mais qui en tout cas aide à réfléchir justement comment se manifestent les rapports de domination et comment vouloir les désamorcer n'est pas si simple non plus. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu ce passage sur la question de la langue et des jeux vidéo qui essayent de réfléchir à quelle langue utiliser.
Oui, alors ça c'est. Alors par exemple, je vais prendre un exemple relativement récent, une question qui s'est posée vers 2018-2019 par rapport au marché moyen-oriental, qui est un marché qui est assez important. Hein, il y a des millions de joueurs et de joueuses de jeux vidéo, beaucoup de e-sport. Ça aussi, c'est un. Alors, c'est une catégorie de jeux dont je ne parle pas dans le livre, mais évidemment, il faut en parler. Enfin, je veux dire, il faut l'étudier avec les outils que je propose dans cet ouvrage. Mais par exemple, la question qui s'est posée, c'était de est-ce que pour le Moyen-Orient, les studios se sont posés la question de savoir si on veut vendre des jeux dans cet espace-là, est-ce qu'il faut qu'on les traduise en arabe? Alors, évidemment, la question se pose mais on parle de l'arabe, mais quel arabe? L'arabe égyptien n'est pas l'arabe syrien, l'arabe syrien n'est pas l'arabe maghrébin, etc. Donc, ça pose des questions assez complexes. Et puis, finalement, la réponse de beaucoup de responsables de studio a été de dire, mais en fait, ils ont tellement l'habitude de jouer aux jeux en anglais que finalement, bah, c'est pas la peine de traduire parce que, en fait, bah, il y a une habitude qui est installée et donc on peut simplement se contenter de continuer à envoyer ces jeux-là. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, des studios peuvent se poser des questions qui ne se posaient pas avant en termes d'inclusivité, en termes de diversité, en termes d'accessibilité, etc. Mais que les arbitrages qui sont rendus sont toujours évidemment des arbitrages comment dire, de position hégémonique. Voilà, donc pas des arbitrages décoloniaux, hein, ça c'est voilà.
Et on peut
Bon.
faire l'hypothèse que c'est en partie lié à leur propre constitution sociologique et au fait que les gens qui restent au pouvoir au sein de ces industries-là sont eux-mêmes représentant des catégories sociales dominantes de leur société, etc. Cette question de l'industrie fait une transition parfaite sur votre chapitre suivant, qui est sur celui sur la politique des identités et le marketing de la diversité. Et effectivement, là, il y a une question que vous venez d'aborder, hein, sur comment l'industrie répond aux revendications montantes et aux polémiques, aux controverses venues de la société. D'ailleurs, vous pointez comment le rôle de ces controverses et comment elles débordent même le milieu vidéoludique pour devenir parfois des débats dans toute la société. Vous parlez, par exemple, vous prenez en exemple le reboot de Lara Croft et sur la scène de viol, et où du coup polémique et la controverse a atteint les milieux féministes et les conversations féministes plus largement. Voilà, peut-être est-ce que vous pouvez revenir sur comment l'industrie et les studios répondent et essayent d'échapper. Vous prenez un autre exemple, celui d'Assassin's Creed, où vous parlez de la tentative d'Ubisoft d'échapper à la conflictualité en créant un personnage métis et qui en même temps renforce la blanchité un peu hégémonique. Voilà, comment.
Oui, c'est vrai que dans la sphère de la culture vidéoludique, on peut dire que ce sont les mobilisations féministes qui ont vraiment fait, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, évoluer les choses. Mais ça s'est fait dans le sang et la violence, parce que ça a commencé par des polémiques, effectivement, et des agressions pures et simples, qui ont visé des joueuses féministes, des créatrices de jeux, etc. Alors, il y a eu tout l'épisode du Gamergate, en particulier, de cette mobilisation hein, d'essentiellement d'hommes blancs hétérosexuels sur les réseaux sociaux qui s'en sont pris de façon un peu à la manière de Raid, hein, un peu comme dans un jeu vidéo, qui s'en sont pris bien aux créatrices de jeux, aux personnes qui défendaient un point de vue féministe, etc. Mais en retour, ce qui est intéressant, c'est que on n'était plus dans les années 80. On était aujourd'hui avec une autre génération qui a réagi à cela en contre-attaquant, en s'organisant et finalement en avançant les pions de la diversité et en construisant une contre-offensive. Donc, on est dans ce contexte-là. Les studios, forcément, leur ennemi, c'est le clivage. Le but des gros studios est de vendre le plus largement possible. Et donc, à partir du moment où un jeu devient clivant et devient la cible d'attaque, forcément, ça leur pose problème. Et c'est pourquoi ils vont constamment essayer d'évoluer en fonction des réactions, finalement, du public. Donc, ces polémiques, elles ont joué deux rôles. Elles ont joué un rôle de structuration des discours et des polarités, hein, des discours aussi bien du côté de l'extrême droite, du sexisme, du racisme, etc., que du côté du féminisme, de l'antiracisme, du queer gaming, etc. Et de l'autre côté, ça a joué le rôle je dirais, pas de pression, parce que c'est pas de cet ordre-là, mais plutôt ça a fait en sorte que les studios ont pris conscience que désormais il y avait des sujets, des sujets politiques qui avaient émergé et qui étaient aussi non seulement des acteurs et des actrices de la communauté vidéoludique, mais aussi des gens qui achètent les jeux et qui ont une influence sur la façon dont les jeux vont être appropriés ou rejetés. Et donc, toutes les stratégies qui suivent découlent de là. Je veux dire, ce n'est pas par hasard que Ubisoft, par exemple, repense, je dirais, la généalogie de Prince of Persia, qui est très orientaliste, etc., pour faire en 2007 Assassin's Creed. Ce n'est pas par hasard que c'est en 2007, tenant compte des temps de développement du jeu, que ce jeu sort et que c'est ce genre de jeu-là. Je rappelle, enfin, 2005, pour qui s'en souvient, c'est quand même des années de révolte urbaine, enfin une année de révolte urbaine qui a montré aussi qu'on était vraiment dans ces polarisations-là autour des questions raciales. Donc les studios en tiennent compte, comme par exemple, alors Ubisoft, on peut en parler, hein, qui a été la cible de très fortes critiques en raison de l'environnement toxique, comme on dit maintenant, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais disons des violences sexistes, agressions sexuelles et autres internes, et conditions de travail, etc. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé une vice-présidente diversité et inclusion. Qui est indienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, Rachisika, je crois, et qui voilà et qui vient donc occuper ce poste de vice-présidente diversité et inclusion. Bon, avec un discours qui est maintenant, il va falloir que dans les jeux, mais aussi dans l'environnement de travail et aussi dans le recrutement, eh bien, on ait plus de diversité, etc. Et ce marketing, ce discours du marketing de la diversité, finalement, eh bien, devient une marque de fabrique d'un studio ou d'une ligne de jeu. Et ça va permettre, en fait, de garantir un succès le plus global possible. Donc, on est loin d'une perspective, je dirais, décoloniale ou antiraciste ou même féministe, hein. On est vraiment dans des jeux d'agencement qui vise en fait à reconfigurer l'hégémonie au fur et à mesure qu'elle est confrontée à des contestations.
Ça fait écho à de nombreuses discussions qu'il y a dans les sphères antiracistes plus mainstream, si on peut dire, hein, sur cette question de est-ce que de nommer des représentants de la diversité suffit à désamorcer les logiques de domination d'ordre racial. Vous prenez un autre exemple un petit peu plus loin dans l'ouvrage d'un créateur de jeu qui a été marocain, je crois, qui a été coopté par un studio canadien. Est-ce que je mélange quelque chose?
Oui,
Et qui,
c'est
justement, du coup, parle de l'orientalisme un peu d'une manière finalement très stéréotypique.
toujours l'exemple d'Ubisoft qui avait ouvert une antenne à Casablanca, pour un studio d'ailleurs qui a bien fonctionné pendant, je crois, 10-12 ans, avant d'être fermé il y a quelques années. Effectivement, c'est un studio qui a joué un rôle dans la conception des Assassin's Creed et justement dans la. Dans la façon, donc ce game designer a joué un rôle dans la façon dont a été repensé, actualisé, si vous voulez, ces représentations orientalistes héritées voilà, du voleur de Bagdad ou des Mille et une nuits. Il s'agissait d'actualiser cela et de le repenser à l'aune de la street culture, du parcours, du hip-hop, etc. Et donc, forcément, quoi de mieux qu'un jeune urbain de Casablanca marocain qui est dans un pays et dans une ville où précisément ces hybridations-là se construisent et s'élaborent au quotidien pour penser cette actualisation. Ça a parfaitement fonctionné d'ailleurs, hein. Donc voilà. Et donc après son parcours l'a conduit, oui, l'a conduit au Canada. Et j'insiste sur un élément économique pour le coup, ce type de représentation, avoir un studio en Afrique, etc., les grosses multinationales, en réalité, hein, c'est typique du capitalisme global, ça ne crée pas d'écosystème local, ça ne permet pas l'émergence d'une économie localisée. En fait, ce sont des sortes de coups de prédation organisés, à mon sens, quelle que soit la qualité de ce qui peut en sortir, par ailleurs. On le voit, hein, derrière, il n'y a pas une industrie du jeu vidéo marocain qui a émergé pour autant.
Et dans laquelle les individus peuvent difficilement s'échapper, n'ont pas les moyens matériels forcément d'échapper à ces logiques. Dans le cadre des polémiques et des controverses qui structurent les réseaux et les communautés, et l'utilité des controverses pour ça, il y a une communauté ou en tout cas un milieu qui s'est approprié avec agilité cet outil, c'est la fachosphère et l'alt-right. Vous parlez de l'extrême droite, vous y consacrez un chapitre sur le lien particulier qu'ils ont à l'univers du jeu vidéo, qu'ils ont très tôt identifié comme un canal de diffusion idéologique efficace. Est-ce que vous pouvez voilà, nous en parler un petit peu et nous expliquer comment à la fois l'extrême droite utilise les controverses ou balance des controverses à dessein?
Oui, il me semble, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, qu'il y a effectivement une stratégie, une stratégie de l'alt-right dont s'inspire l'extrême droite française, et puis l'extrême droite française en retour inspire aussi l'alt-right. Enfin, je veux dire, tout ça circule, hein, c'est une internationale, ça circule très bien, et qui va consister à gagner la bataille culturelle. Alors, bon, d'autres que moi l'ont vu de longue date. Hein. À un moment donné, pour l'extrême droite, à défaut de pouvoir conquérir le pouvoir par les urnes, il s'est agi de configurer le débat politique à partir de nouvelles catégories qui permettraient en fait d'installer des conceptions et des idées qui viendraient finalement alimenter de façon hégémonique. Le champ du débat politique et le champ du débat culturel. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec des idées comme le racisme anti-blanc ou des choses comme ça. Je pense que personne n'a oublié que c'est Jean-Marie Le Pen qui parlait de ça et que maintenant, ça devient une catégorie du débat. Voilà, donc parfaitement assumé d'ailleurs par des gens de gauche également. Donc, d'une certaine manière, c'est le résultat d'une stratégie. Et cette stratégie, elle s'est déployée à différents niveaux. Presse, dans les médias, mais bien entendu aussi dans des communautés en ligne et les réseaux sociaux. Alors, à travers des jeux qui n'ont aucun intérêt en termes de jeu, mais qui sont destinés finalement par leur sujet, je dirais, polémique. À susciter la polémique pour engendrer des discussions, alors qu'il s'agisse de soutenir ou de critiquer, eh bien, c'est parfait. On lâche cet objet, par exemple, toute la série, alors qui s'étale sur plus de 10 ans, 15 ans, des Casey Manager, où on incarne, on gère un camp de concentration nazi, et donc, voilà, de façon comme si c'était un jeu de gestion. Alors c'est tout pourri, ça n'a aucun intérêt en termes de jeu, etc. Mais forcément, ça va susciter des débats, des questions, des oppositions, etc. Et donc du coup, on en discute. Et on discute de est-ce que ça n'est qu'un jeu, donc ça n'est pas très grave. Ou alors, on va dire non, mais tu ne te rends pas compte, c'est horrible. Ou alors, non, mais de toute façon, c'est des juifs, ou c'est des... etc. Donc on peut les... Et donc tout ça diffuse, et finalement, à travers la polémique, on va installer des catégories discursives et qui vont s'installer dans le débat. Et ça, c'est une stratégie de l'alt-right, de l'extrême droite de longue date, qui a compris qu'on pouvait finalement, qu'on pouvait, dans les pratiques vidéoludiques, à travers des pratiques vidéoludiques, construire un sujet politique. Alors que, sans doute, à gauche, même si, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, pour la campagne de 2017, lui aussi avait... enfin, alors, c'est pas lui, c'était des jeunes de la France Insoumise qui avaient fait un jeu vidéo Fiscal Combat. Mais il a compris que c'était un enjeu, et je crois que récemment encore, il s'est positionné en faveur du jeu vidéo en disant « Mais pourquoi on ne peut pas vendre de jeux alors qu'en fait, les... C'est un produit culturel comme un autre, et donc pourquoi les rayons sont fermés? Enfin voilà, avec le. Il a compris que c'était important, mais disons que traditionnellement à gauche, on considère le jeu vidéo et les pratiques du jeu vidéo comme étant empreintes, enfin en tout cas marquées par le soupçon de l'aliénation. Au discours idéologique dominant, etc., à l'abrutissement, etc. Ça, c'est un discours qui a fait florès. Je pense que l'alt-right a été beaucoup plus pragmatique et a capitalisé là-dessus. Donc, les polémiques, elles jouent un rôle très, très important, puis c'est devenu une modalité centrale du débat public aujourd'hui, de toute façon. On le voit, hein. Il s'agit de construire une polémique pour pouvoir avancer une idée aujourd'hui. Sinon, on est inaudible en réalité.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur quelque chose qu'on avait mentionné un petit peu plus tôt, et le fait que le jeu vidéo n'est pas du tout hermétique et au contraire en très grande connexion avec le reste de la société, c'est vrai que dans les débats de société, dans les controverses mainstream, beaucoup se sont joués aussi sur les forums de discussion, y compris des jeux vidéo, hein, jeuxvideo.com, qui est connu des non-joueurs parce que justement, il y a eu des échanges et vous montrer les stratégies d'inondation d'agents politiques, en fait, hein, qui déforment qui font la proportionnalité, on va dire, des opinions et des points de vue. Je voulais aussi revenir sur un autre chapitre très très stimulant consacré au Japon, où avec cet exemple, vous questionnez, vous déconstruisez, vous retournez justement les concepts d'hégémonie, de centralité, de domination, puisque vous expliquez que le Japon est à la fois une société hégémonique, hein, impériale, mais n'est pas occidentale et donc vient un petit peu perturber les grilles d'analyse habituelles que nous avons pour penser la domination et que ça s'exprime donc dans l'industrie vidéoludique. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu tout ça?
Oui, alors je l'expliquerai de façon très superficielle par rapport à ce qui est développé dans le livre, forcément, parce que c'est une question très complexe. Bon, de toute évidence, pour nombre de peuples asiatiques en Asie, le Japon incarne comment dire, la quintessence de l'impérialisme et de la conquête. Donc voilà, donc on va ça. On le sait. Néanmoins, par ailleurs, c'est un pays qui, depuis plus d'un siècle, finalement, est configuré et reconfiguré par la modernité occidentale. Alors, par nécessité, autant que par volonté politique, enfin, c'est très compliqué, tout ça, c'est des phénomènes très, très complexes. Et donc, nécessairement, l'hybridation qui se produit au niveau du Japon produit un certain nombre de contradictions, mais qui sont des contradictions propres à l'ère contemporaine, finalement, où on va avoir des sujets. Alors ici, il s'agit, on peut le prendre en tant que société ensemble. Ça va produire des sujets qui sont porteurs de ces contradictions, c'est-à-dire à la fois des sujets qui ont une essence, finalement, antérieure à cette modernité et à cette colonialité, et puis aussi, ils sont constitutifs, hein, de la production d'un certain modèle de colonialité. Alors, on peut parler d'hyperculturalité parce qu'on est au-delà de l'identité culturelle, hein, on est dans quelque chose qui va s'articuler à toutes les circulations du capitalisme global et à la complexité donc des sujets politiques qui existent dans cet environnement globalisé où il y a énormément de circulation. Le travail, en fait, en réalité, qu'on peut essayer de faire, et quand on a des jeux vidéo, par exemple, que je prends dans le livre, et notamment je reviens sur la polémique autour de Resident Evil 5, voilà, où on a eu des réactions, alors par rapport à la diffusion du trailer, hein, donc le jeu n'était pas encore sorti, c'est le trailer qui a fait polémique d'abord, et je me souviens d'ailleurs, à l'époque, j'avais été auditionné au Sénat par la commission des affaires culturelles et bon sur l'intérêt du jeu vidéo etc. pour l'éducation et tout, j'avais évoqué cette question et tout de suite la réaction ça avait été ah mais il faut interdire le jeu en France alors bon ce qui montrait que bon il y a encore du travail à faire au niveau des politiques pour qu'on comprenne un petit peu les enjeux mais ça n'a pas forcément beaucoup bougé hein.
Et donc, il y
L'idée
avait
c'était
une polémique. La polémique, c'était que le trailer était accusé d'être raciste. Et en défense, Les studios ont dit oui, mais ça se passe aux États-Unis, c'est un racisme américain, en fait, pour se défendre.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit, bon, on incarne un agent qui arrive dans une localité africaine, alors qui est pas identifié hein, dans le trailer, et donc il va être confronté à une foule d'habitants zombifiés, et tous ces habitants sont noirs, et donc on a un soldat, enfin un agent blanc, Chris Redfield, qui va dégommer des hordes de zombies infectés. Puis ça, voilà, ça ravive des images stéréotypiques, racistes, voilà, qui s'ancrent dans une généalogie aussi de la représentation culturelle. Et effectivement, toute une série d'arguments pour dire, bon, du côté du Japon, pour dire, oui, mais c'est comme ça que, voilà, aux États-Unis. Et puis du côté à l'inverse, un autre type d'argument, c'était de dire, oui, mais les Japonais ne se rendent pas forcément compte, parce que en fait, pour eux, voilà, ils sont pas inscrits dans nos débats sur les Noirs, les Blancs, etc. Et donc, du coup, ça leur échappe. Bon, alors évidemment, aucun des deux arguments ne fonctionne en réalité. Et je l'évoque dans le livre, en particulier au Japon, on le sait, il y a la façon dont on a représenté les Noirs dans la culture populaire japonaise découle de la réception des productions racistes, stéréotypées, occidentales au Japon. Et donc il y a aussi des généalogies à retracer comme ça. Qui nécessite un travail historiographique très précis et très systématique, et qui permettent en fait d'éclairer hein, la complexité de la circulation des stéréotypes racistes finalement, et la façon dont ils vont être reconfigurés. Et puis après, il y a la question de la réception, évidemment. Bon, on peut aussi bien, comme on apprend à le faire, et malheureusement, lorsqu'on est une personne racisée, des fois on fait abstraction pour accéder au plaisir de jouer. On est contraint à faire abstraction de la violence raciste qui s'exprime et voilà, ou à accorder plus ou moins d'importance à la question de la visibilité. On est dans cette position où la question d'être représenté, d'être visible ou pas visible, enfin ça devient, tout le monde n'a pas la même, y compris bon, dans les publics racisés, il n'y a pas forcément les mêmes revendications. Par rapport à cette nécessité d'être forcément visible ou d'avoir des personnages auxquels forcément s'identifier parce qu'ils nous ressemblent en fait. C'est une question qui est plus complexe que le débat sur la diversité veut nous le faire croire. C'est ça que je veux dire.
Oui, ça c'est vrai que c'est un des écueils des débats et des luttes antiracistes en général, c'est d'avoir une tendance à ne pas nuancer ou à rendre monolithique les blocs identitaires, cette expression, les blocs voilà, de population et de ne pas distinguer à l'intérieur de ces groupes les différentes nuances qui peuvent s'exprimer ou voire rivalité, même si le concept d'intersectionnalité voilà, nous aide à penser cette complexité. Vous finissez dans ce chapitre-là par demander si Resident Evil 5 est un jeu japonais et vous répondez en citant longuement un auteur qui dit que c'est un jeu intensément transculturel. Alors je peux citer hein, ce tout petit passage. Donc c'est un texte intensément transculturel, un jeu fait dans le Japon du XXIe siècle avec des cinématiques hollywoodiennes s'inspirant de l'imaginaire colonial européen et de représentations des Noirs rappelant les théories raciales du XIXe siècle, utilisant la figure du zombie dont les origines se situent en Afrique de l'Ouest et en Haïti, mais qui a de toute évidence été mondialisé à travers le cinéma hollywoodien, et ciblant les marchés japonais, nord-américains et européens. Donc effectivement, on se dit, ah bah tiens, c'est un jeu transculturel, et en même temps, pas tant que ça. Ce que vous me
Oui,
dites.
la question de la japanité voilà, dans le jeu vidéo, c'est aussi un argument de vente au même titre que la francité, finalement. Il est évident que pour toute une partie du public occidental, hein, Alors, encore une fois, je fais une parenthèse rapide. On utilise des termes et des terminologies qui ne sont jamais complètement satisfaisantes, mais qui nous permettent de nous comprendre à minima. Pour toute une partie du public occidental, il est évident que des jeux comme Resident Evil ou Silent Hill ont une dimension de japanité. Et notamment parce que certains personnages, par exemple, graphiquement, sont représentés avec du point de vue graphique, avec des codages qui rappellent le manga, par exemple. Dans Silent Hill, toute une esthétique des apparitions fantomatiques et qui va renvoyer voilà, à ce que ici nous percevons hein, du Japon. Donc, du coup, ça renvoie à une forme de japanité des jeux, mais des jeux qui sont conçus aussi pour le marché occidental. Donc, vous voyez, bon, quand c'est transculturel, c'est à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant et ce que j'essaye de montrer, c'est comment le racisme, en fait, est transculturel, mais tout en étant le produit de la colonialité et donc d'une histoire pluriséculaire. Et la difficulté, évidemment, c'est de réfléchir en termes de circulation et de généalogie plutôt qu'en termes d'opposition des blocs, parce qu'en réalité, les choses sont tellement imbriquées et complexes que si on veut dénouer tout ça, on ne peut pas le faire simplement. Voilà. Cela n'exclut pas la nécessité de positions politiques, parfois tranchées et affirmées, parce que c'est aussi nécessaire pour créer des espaces.
Alors, on va pouvoir commencer à ouvrir le débat avec les personnes présentes. Donc, je vous invite à me poser des questions, enfin, à poser des questions à Médidafni dans le chat que je vais réceptionner et que je vais lui poser en retour. En attendant, j'avais quand même très envie d'aborder un autre aspect. Alors, ensuite, dans le livre, vous évoluez et vous commencez à tracer, à esquisser une géographie un peu peut-être du gaming postcolonial et vous passez en revue différentes zones géographiques du monde et les différents enjeux et vous parlez des Antilles françaises et notamment de la Martinique que vous placez à l'avant-garde du gaming postcolonial et vous parlez de deux jeux qui ont été réalisés dans les années, à fin des années 80, Mewilo et Freedom, qui sont de ce point de vue-là très modernes, très novateurs et qui décentrent vraiment le point de vue. Et du coup, les Antilles, c'est vrai que c'est intéressant parce que on est là encore dans une intersection entre la marge et l'hégémonie et comment la France a toujours du mal à penser les territoires d'outre-mer comme faisant partie intégrante de la nation, de l'identité nationale. Voilà. Donc on est là aussi dans un centre-périphérie intéressant.
Oui, c'est-à-dire, alors évidemment, c'est pas. Je cite cet exemple parce qu'il fallait le citer dans le livre. C'est important. Entre le moment où j'ai écrit le livre et maintenant, Muriel Tramis a été un peu plus médiatisé. Son travail a été un peu plus médiatisé. Donc ici, là, j'ai partagé une image hein, du jeu qui a été. Donc il y a deux jeux. Il y a Mewilo et Freedom, coécrit avec Patrick Chamoiseau. Voilà, donc c'est des jeux de 86, 87. Il y a eu récemment, alors je le partage également, vous le voyez ici, voilà, hop, voilà, le Combi du jeu vidéo qui était un forum des professionnels afro-créoles de l'industrie vidéoludique. Et puis j'ai commencé avec Marion Coville et un groupe d'étudiantes. Et d'étudiants, une enquête sur les publics du collectif Afro-Gameuse, qui est un collectif de joueuses afro-descendantes voilà, qui stream. Voilà, entre l'écriture du livre et maintenant, il se passe des choses, il y a des choses dont on parle plus. L'idée, en insistant sur cet exemple du travail de Muriel Tramis, c'était de montrer que ce n'était pas une question nouvelle. C'est que ce sont des enjeux qui existent depuis très longtemps et on a tendance à les présenter comme des enjeux émergents, Mais en réalité, non, la différence, sans doute, c'est que le contexte, et notamment grâce aux réseaux sociaux, hein, qui permettent de créer des espaces de parole qui échappent au circuit dominant, eh bien, voilà, il y a des paroles qui se font davantage, davantage entendre sur des questions qui, en réalité, sont débattues depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et le rapport de la France à ses outre-mer reste un rapport colonial. C'est un des meilleurs exemples de cette histoire de, si vous voulez, de colonialité. Ou par exemple, quand on parle de médiamétrie et des audiences télévisuelles, et puis que je regarde le panel, et puis que c'est un panel France métropolitaine. Ah bon, alors donc ça veut dire qu'on ne... On n'intègre pas dans le panel des gens voilà, des outre-mer. Donc voilà. Bon. C'est quelque chose qui est ancien, qui est très, très présent. Les revendications d'indépendance ou d'autonomie existent. Mais il y a une difficulté à prendre ces enjeux-là en compte en France. Et forcément, dans l'histoire du jeu vidéo et la façon dont l'histoire du jeu vidéo s'est construite, bah, c'est une histoire nationale. Et c'est une histoire qui ne tient pas compte du fait que la France est un pays où vivent des diasporas, par exemple, qui circulent, qui ne s'arrêtent pas aux frontières de la France métropolitaine et qui vivent entre des territoires, qui circulent, qui échangent, et d'autant plus au XXIe siècle, où des pratiques, des savoirs, des idées s'échangent avec d'autres continents au sein des diasporas. Et ça, c'est des choses qui sont très, très difficilement prises en compte, y compris dans les approches sociologiques ou historiographiques du jeu vidéo.
C'est un bon exemple aussi de comment, pareil, dans les débats de l'antiracisme politique aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'importance de laisser la parole aux concernés et que les concernés... par quelques questions, soit acteurs et actrices eux-mêmes et elles-mêmes. Et donc, du coup, ce jeu qui se passe en Martinique, dans les Antilles françaises, du point de vue pour Freedom d'un esclave, etc., est intéressant. Et ça m'amène à généraliser un peu cette question de... Je ne sais pas si elle est soluble, mais est-ce que seuls les concernés doivent pouvoir être à la maîtrise ou de la création des jeux? Que pensez-vous sur ce sujet?
Moi, la question, c'est ça dépend ce qu'on veut. Si on veut plus de diversité, par exemple, on fait des petites places à proportion de, de ce qu'on représente en nombre. Si on veut transformer l'ordre social, les rapports sociaux, et donc transformer la société, il s'agit de déplacer le centre du pouvoir. Il s'agit que le pouvoir n'appartienne plus aux mêmes personnes. Et c'est tout à fait différent. Enfin, j'invente rien en disant ça. Il me semble que si la Révolution française, pour prendre un exemple cher aux républicains qui ont des problèmes avec le décolonial, si la Révolution française avait dit finalement c'est le roi qui est le mieux à même d'incarner la République. C'est ce qui a été le cas pendant un moment, mais on a vu que ça n'a pas duré, on lui a coupé la tête. Si c'est l'aristocratie et le clergé qui sont finalement les mieux à même d'incarner notre idéal de République bourgeoise, ça n'a pas été ça. La bourgeoisie voulait prendre le pouvoir, elle a pris le pouvoir, elle a transformé la société à partir de ses intérêts, et puis elle a pris la place, ou en tout cas, elle a fait en sorte d'essayer de prendre la place de catégories sociales qui avaient le pouvoir. Donc, c'est d'abord ça, c'est d'abord cet enjeu, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en réalité. Et c'est donc la limite pour moi du discours de la diversité qui est une sorte de concession. Et c'est la même chose avec le féminisme. On a des concessions mais qui, en fait, ne transforme rien fondamentalement dans le mode, le type de rapports sociaux qu'on a. Ça ne change rien au racisme, ça ne change rien au sexisme, fondamentalement, et aux violences qui en découlent. Donc voilà.
Qu'aurait-il faire pour transformer? Est-ce que vous avez des pistes à nous offrir pour plus fondamentalement ou plus franchement transformer ces rapports?
Au niveau du jeu vidéo, c'est ce qui se fait déjà. Je pense que il y a tout un ensemble de communautés au pluriel qui s'organisent, où il y a d'ailleurs, c'est très intéressant, où il y a des sortes de convergences circonstancielles aussi. Hein. On le voit lorsque, par exemple, des gens qui ne sont absolument pas militants, lorsqu'il y a des polémiques comme le Gamergate, bah, d'un seul coup, bah, il y a des joueurs qui vont appuyer et qui vont venir simplement, des hommes blancs, etc., qui vont venir appuyer bah, les joueuses qui sont agressées ou les féministes qui sont attaquées. Puis voilà, c'est circonstanciel, c'est des convergences circonstancielles. Et puis, bah, toutes ces communautés, elles créent des espaces. Et pour l'instant, on en est là. Enfin, je veux dire, savoir ce que ça va donner, comment ça va évoluer, c'est compliqué. Je pense qu'il y en a qui vont vers une intégration au système, d'autres qui vont préserver des espaces radicaux autonomes, d'autres qui vont essayer d'être dans une perspective intermédiaire. C'est difficile à dire, mais on est, pour l'instant, c'est déjà construire sa parole, reconstruire sa parole qui a été confisquée, hein, des paroles qui ont été confisquées ou invisibilisées, les reconstruire, les rendre disponible, visible pour qui veut s'en emparer, et forcément voir l'influence que ça a en termes de création de jeu, en termes d'évolution des discussions autour du jeu vidéo, et puis de représentation et au niveau de l'industrie. Et voilà. Mais après, on est toujours dans un système de capitalisme global, et donc il y a toutes les limites associées à cela. Voilà, c'est.
Ça ressemble à l'écologie de l'antiracisme, où effectivement on a sur un continuum ou un spectre très large des groupes et des revendications très radicales d'un côté, et puis plus modérées jusqu'au centre, et que en même temps les revendications très radicales qui n'ont a priori aucune chance d'être entendues là immédiatement, en même temps permettent de faire basculer tout le mouvement vers, enfin pour atteindre le centre. Alors, je vois une première question. Alors, si vous n'en avez pas d'autres sur la place paradoxale du capitalisme dans cette question de l'inclusion dans le jeu vidéo. On voit que les studios sont très sensibles à ce qui se dit des jeux, comme le dit Mehdi, ils cherchent à ne jamais être clivants, pensent à la traduction des dialogues. Est-ce que finalement le désir de vendre de ces studios joue un rôle dans l'évolution progressiste des jeux, ou bien est-ce qu'ils phagocytent ce mouvement? J'ajoute à cette question-là, est-ce qu'on observe une maturité plus importante, une sophistication du débat et de compréhension des enjeux depuis quelques années?
Oui, moi je pense que déjà ce qui est remarquable, c'est qu'on a, en termes de vocabulaire politique par exemple ou théorique, il y a des concepts qui circulent beaucoup. Voilà, quelque chose d'aussi compliqué finalement que l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui est discuté, approprié dans des espaces parfois inattendus. Hein, enfin, ou avant, ça n'apparaissait pas du tout, alors que ça fait 40 ans que ce concept, enfin, un peu moins, mais. Ça existe. Donc, oui, et je pense que ça accompagne aussi, peut-être, mais bon, il faudra en faire la sociologie, une élévation du niveau de formation aussi bah, des personnes qui jouent aux jeux vidéo, simplement, aujourd'hui, et en particulier dans les publics racisés. Bah, il y a beaucoup de gens quand même qui ont fait des études. Et forcément, alors, qui ont fait des études et qui s'intéressent et qui s'investissent dans des communautés pour voilà donc, qui sont aussi formatrices et auto-formatrices. Bon, et du côté des studios, faut pas oublier qu'ils disposent d'armadas de spécialistes, que c'est des stratégies extrêmement pensées, élaborées, et puis qu'ils ont les moyens de capter et d'intégrer aussi un maximum de créativité. Et c'est forcément ce rapport-là qui est compliqué. On ne peut que souhaiter que dans les productions mainstream, les choses évoluent en termes de représentation. On ne peut que souhaiter cela. Mais qu'adviendrait-il d'un jeu? Verrons-nous un jeu mainstream vraiment qui ne pose vraiment aucun problème en termes de représentation et qui, voire qui renverse, et qui pour autant serait accepté par les décisionnaires des studios. Alors, voilà, il y a eu au cinéma des exemples récents qui montrent qu'à Hollywood, on a des fenêtres, je pense à Get Out, Black Panther dans une certaine mesure, par exemple, etc. Dans le jeu vidéo aujourd'hui, ça paraît quand même plus lointain comme perspective. Par contre, dans le jeu indé, c'est un petit peu différent. Le queer gaming se développe énormément, se structure aussi en termes de recherche universitaire, en termes de communauté de création, avec une forme internationalisée aussi, qui est très intéressante, où ça discute, ça circule. Je la cite à nouveau, Isabelle Arvers fait sa thèse là-dessus de doctorat, et donc on attend avec impatience les résultats de ses travaux dans quelques années, parce que ça va permettre aussi de rendre visible cette internationale, finalement, qui ne l'est pas tant que ça pour le grand public aujourd'hui.
C'était pile la question suivante qui demandait, est-ce que finalement on n'assiste pas à un changement du jeu vidéo avec les studios indépendants? Les histoires racontées sont vraiment différentes, il y a plus de liberté et ils ont moins la volonté de vouloir plaire au plus grand nombre, contrairement aux studios mainstream.
Oui, ben c'est toujours le même... bon, voilà. Alors, plus de liberté de création, ça ne veut pas dire forcément qu'on échappe aux stéréotypes, parce qu'on reste configuré, forgé et inscrit dans un contexte. Donc forcément, c'est pas parce qu'on a plus de liberté pour dire ce qu'on a envie de dire que nécessairement on va réussir à construire des représentations qui échappent aux stéréotypes dominants. Mais bien évidemment, on se positionne sur d'autres problématiques et d'autres enjeux, et on voit dans le jeu indé effectivement tout un tas de choses qui émergent. La question, c'est toujours dans une perspective de transformation sociale, c'est quel impact, à quel niveau ça joue et comment ça peut permettre de faire basculer finalement les rapports de force. Hein. C'est toujours cette question-là. C'est absolument nécessaire comme espace et comme territoire. Et à un moment donné, comment ça contribue à la transformation sociale de façon déterminante. Faut voir. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire à l'avance ou planifier.
Vous avez pris plusieurs exemples dans le livre à différents moments de différentes tentatives plus ou moins à droite des studios pour justement répondre à ces questions. Vous mentionnez, alors je ne me souviens plus de quel jeu, etc., mais d'un jeu où on peut soit l'avatar en transformer, enfin en choisir la race ou le genre, ou au contraire une tentative de figer et de manière non libre la race et le genre du personnage, de l'avatar du personnage joueur, et que du coup ça avait créé des polémiques de la part des joueurs, des tentatives aussi des cas de figure où on ne sait pas de quelle race on est, mais les autres joueurs en réseau, eux, le savent. Enfin, il y a eu différentes tentatives qui n'ont pas toujours...
Oui. Alors, ça c'est... Je peux citer un exemple récent qui est celui de Cyberpunk 2077, qui est un jeu qui était très attendu, du même studio qui a produit The Witcher, dont je parle et que j'analyse un peu plus en détail dans le livre. Et Cyberpunk, en fait, est assez exemplaire à la fois de la façon... oui, et d'ailleurs, si je m'intéresse aux jeux mainstream, c'est bien parce que je veux systématiquement porter le fer dans les représentations dominantes pour ne pas laisser passer des choses qui, en fait, autrement passeraient... de façon ce jeu a été loué, en particulier comme Mass Effect par exemple a été loué pour la possibilité de transformer, customiser son avatar, et notamment sur le plan sur le plan du genre, mais aussi sur le plan ethno-racial. Alors c'est la même chose avec Cyberpunk. On a Cyberpunk 2077, on a dit c'est génial. En fait, une possibilité de construire l'ethnicité de son personnage qui va vraiment être très fine. Et ça, c'est formidable. Mais le modèle par défaut, c'est un avatar blanc, déjà, et puis un masculin blanc. Et donc, c'est intéressant parce que c'est toujours cette idée que c'est l'étalon à partir duquel les configurations raciales se déclinent.
La variation part de là.
Voilà, la variation part de là. Ce qui vient souligner, en fait, tout un discours qu'on va retrouver dans tout un tas de productions culturelles en général, qui est que eh bien, le propre de la blanchité, justement, est d'être capable, finalement, d'incarner de façon convaincante la diversité. Alors, c'est sans doute un peu rapide comme ça, mais c'est, si vous voulez, là où les autres identités ethno-raciales, pour les nommer ainsi, sont enfermées dans des structures relativement fixes. Le caractère de la blanchité, c'est précisément sa capacité à l'hybridation, au métissage, à l'évolution, etc. Et donc, le modèle même de l'avatar blanc par défaut, que l'on peut customiser pour le faire avancer dans une gamme voilà, ethnique et tout, ça renvoie précisément à cette plasticité du corps blanc que les autres corps n'ont pas. Et d'ailleurs, une fois que vous avez terminé cette customisation, c'est fixé, ça y est, c'est fini. Mais vous êtes parti quand même d'un corps blanc, et très normé, etc. Et par ailleurs, ça vient prendre place, et c'est là que c'est un autre niveau d'analyse qu'il faut avoir. Alors ça, c'est très bien, et ça renvoie aussi à l'expérience de jeu, à la question de comment les joueuses expérimentent finalement le jeu. Et ça permet de construire, d'identifier des significations qui parfois échappent à l'analyse des représentations, mais dans la représentation du jeu, on est dans un environnement cyberpunk des plus classiques, et le cyberpunk en tant que mouvement littéraire a capitalisé, par exemple, sur une sorte de techno-orientalisme, hein, comme on l'a appelé, qui consiste à transformer les angoisses et les peurs liées dans les années 1980, à l'époque où William Gibson publie Neuromancer, eh bien, à capitaliser sur les angoisses et les peurs liées au Japon conquérant, sur le plan technologique, hein, les multinationales japonaises qui conquièrent le marché de la haute technologie. Et du coup, le cyberpunk, il prend place là-dedans, une sorte de décadence de l'homme blanc, d'affaissement de la masculinité blanche, qui va être confronté, eh bien, comment dire, à la nécessité d'utiliser des drogues ou des prothèses voilà, pour se reconfigurer dans un environnement hostile, etc., etc. Donc c'est ça le cyberpunk. Donc c'est très bien qu'on ait une ville multiculturelle avec un avatar qu'on peut customiser, etc. Mais si on refait la généalogie en termes de représentation de de quoi on parle et de où est-ce qu'on se situe, eh ben c'est l'image d'une mégalopole hystérique, décadente, multiculturelle, où l'homme blanc occupe une position d'effacement et de vulnérabilité qui, voilà, à partir de laquelle il construit toute une série d'angoisses et d'anxiétés qui vont le constituer en tant que sujet. Et donc l'identification que l'on propose, c'est celle-là. Ce n'est pas une ville de l'émancipation multiculturelle, c'est une ville de l'anxiété blanche. Et c'est ce qu'il y a dans le jeu. Voilà, c'est l'image de la jungle urbaine et qui est un héritage orientaliste. Voilà, la casbah, la jungle urbaine. Enfin bon, c'est un vieux stéréotype.
Alors, j'ai une question pour vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez d'un titre comme Assassin's Creed Origin, dont le protagoniste est égyptien et dont le directeur créatif était lui-même aussi égyptien? Ça revient un petit peu à ce qu'on discutait tout à l'heure aussi sur si on, enfin voilà, les acteurs, les concernés.
Alors, ce que j'en pense, ça dépend en quel terme. donc, c'est déjà, pour moi, ça reste dans la même lignée que les autres productions Assassin's Creed, c'est-à-dire une forme de capitalisation sur cette idée à la fois le patrimoine et la diversité et l'hybridité culturelle. On est dans cette série, quels que soient les épisodes, et y compris aussi dans la capacité de la série à dire finalement, on va montrer de façon convaincante à chaque fois des environnements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Hein, on est dans une sorte de tourisme culturelle comme ça qui se joue à travers les différents épisodes. Et bien sûr, le fait qu'on aille chercher, comme on l'a fait pour le premier Assassin's Creed, qu'on aille chercher bah, des personnes racisées pour leur expertise en fait culturelle, ça permet de rendre encore plus convaincante l'intégration de ces niveaux de diversité et d'hybridation culturelle qu'on veut installer dans le jeu. Mais après, on reste sur une représentation exotisante. C'est quand même toujours le même problème. Et il faut aussi analyser ce dont je n'ai pas encore parlé, mais les questions de gameplay. C'est-à-dire quand on a des gameplays qui sont fondés sur l'appropriation du territoire et la pacification du territoire, où on va découvrir des zones au fur et à mesure de leur exploration et bah, au fur et à mesure qu'on élimine des ennemis ou qu'on conquiert des places qui nous permettent de cartographier et en même temps de pacifier ces zones-là, puis après on passe à une zone suivante. Quand on a des gameplays basés sur l'affrontement, quand on a des, bah, ça pose quand même tout un tas de questions. Alors ça peut être très ludique, c'est ça l'ambivalence, c'est que ça peut être très sympa et très ludique, mais en même temps, bah, ça porte des significations aussi. Ça renvoie forcément à tout un imaginaire colonial, de la conquête, de la cartographie coloniale, etc. Ce n'est pas innocent non plus.
Alors, autre question. Pour votre livre, avez-vous été en contact direct avec les studios de développement et ou éditeurs de jeux vidéo? Et qu'est-ce que vos rencontres vous ont permis de découvrir que vous n'auriez pas pu connaître sans ces rencontres?
Alors, à part, d'abord, j'ai pas cherché à contacter, comme je le disais, c'est pas tellement un ouvrage d'historien où j'aurais confronté des archives à des entretiens, j'ai pas fait d'enquête sociologique, etc. C'était pas le but, hein, c'est vraiment un livre d'intervention et d'analyse des représentations. Et donc, je n'ai pas cherché à contacter les studios, en dehors de Muriel Tramis, avec qui j'ai pu échanger. Non, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai joué au jeu et j'ai construit un propos sur les jeux. Ce serait un travail. D'ailleurs, j'ai des étudiants qui travaillent là-dessus, mais c'est très difficile, déjà, de faire ce travail auprès des studios quand on aborde les questions de genre et de race. C'est très compliqué d'intégrer les milieux professionnels, d'obtenir la parole des professionnels, etc. On le voit, c'est très compliqué. C'est plus facile avec les studios indés, c'est très compliqué avec les gros studios. Et enfin, les étudiants qui bossent là-dessus rencontrent d'énormes difficultés. Mais il y a des travaux et des choses qui vont sortir sur ce point de vue-là. Donc voilà,
très bien. C'est en cours. En parlant de Muriel Tramis, elle nous envoie un message. Je voudrais remercier Mehdi d'avoir cité mon travail, qui était vraiment d'avant-garde en 1987-1988. Et je voudrais savoir si, selon lui, on peut déconstruire, grâce aux jeux vidéo, le, entre guillemets, préjugé de couleur, qui est à l'origine des discriminations de certaines populations aujourd'hui, notamment dans l'emploi ou le logement. En tout cas, c'est l'objectif que je vise avec un nouveau jeu en préparation, Remembrance, développé par une équipe composée de créoles originaires des Antilles et de l'océan Indien.
Eh ben oui, moi je suis persuadé que le jeu vidéo est un outil formidable, formidable pour ça, et je suis vraiment enchanté que Muriel Tramis puisse nous proposer bientôt ce jeu. Vraiment.
Très bien, ça c'est une perspective optimiste. Du coup, on attend aussi. Alors, autre question, est-ce que vous avez des exemples de gameplay qui ne soient ni racistes, ni coloniaux, ni masculinistes?
Non, honnêtement, bon, des exemples comme ça, mais c'est un petit peu comme si vous me demandiez, est-ce que vous avez des exemples de films qui... c'est compliqué. Parce que, écoutez, honnêtement, il y a deux niveaux différents. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas négliger le niveau des pratiques des publics qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui viennent resignifier finalement, même par rapport à des jeux mainstream qui véhiculent voilà, des représentations problématiques. Ben, on va s'apercevoir que ben, la façon dont des joueuses y jouent permet d'interpréter les choses un peu différemment ou de créer des espaces où on va pouvoir voilà, contrebalancer ce qui est le discours textuel du jeu. Et puis après, honnêtement, je vous invite simplement, en fonction de vos centres d'intérêt, je ne veux pas donner des exemples, mais allez voir tout ce qui se fait du côté du jeu indé et du queer gaming. Il y a des sites internet. Alors, je peux partager, alors, en anglais, alors, par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui est quand même, qui produit énormément de choses en termes d'analyse. Je ne trouve plus mes mots
Ce que
sur le jeu
j'aime,
vidéo, avec des perspectives justement queer et autres, qui est Adrienne Chaud, mais il y en a d'autres, il y a Soraya Murray, etc. Et donc il y a un site qui répertorie, qui s'appelle LGBTQ Video Game Archive, et sur lequel voilà, bah, il y a une petite liste de jeux vidéo dans lesquels il y a des représentations LGBTQ. Ou alors des jeux vraiment issus de la communauté aussi, et évidemment, ou qui ont été appropriés par la communauté. Par exemple, un jeu comme Mass Effect ou des jeux comme Dragon Age sont des jeux mainstream, mais qui ont connu des appropriations de la part de publics trans qui sont tout à fait importantes et déterminantes. Et donc, on ne peut pas négliger ça, même si c'est un jeu mainstream. Et puis après, bon, il y a tout le queer gaming. Un dé qui existe et dans lequel vous allez trouver pas forcément des choses toujours abouties sur tous les points de l'intersection genre classe race, etc. Parce que enfin voilà, on est dans des productions relationnelles qui engagent des rapports sociaux, c'est compliqué, mais qui en tout cas se posent la question dans le gameplay, dans l'inclusivité, même des interfaces, par exemple, se posent ces questions-là. Quelle réponse on apporte à des problèmes et des enjeux d'inclusivité, par exemple.
Dans votre conclusion, d'ailleurs, vous mentionnez deux jeux, Uncharted Lost Legacy et Life is Strange 2, pour justement ouvrir sur des jeux qui se proposent un petit peu différents, un petit peu différemment.
Oui,
J'ai
il
encore
y a un
une
chapitre sur le gaming postcolonial dans lequel je cite d'autres jeux. Ouais.
J'ai une autre question pour vous. Quelle est la suite de vos recherches?
Sur le jeu vidéo,
Oui,
parce
sur
que
le jeu vidéo. C'était d'ailleurs précisé entre parenthèses, en tout cas dans ce domaine. Je me suis dit que ça allait de soi, et puis ben non. Donc sur le jeu vidéo, ouais. Ou le
alors sur le jeu,
racisme, enfin racisme et jeux vidéo.
oui, bah, en fait, il y a deux choses. Il y a un volet que j'ai retiré du livre parce que je souhaiterais le développer par ailleurs. C'est le thème de l'orientalisme, vraiment à travers justement. Donc un travail sur les enjeux de cartographie, la représentation des espaces urbains, et puis les stéréotypes orientalistes simplement dans les jeux. Et ça me permettra voilà, de constituer. Donc je travaille là-dessus actuellement pour un autre projet de livre. Et puis par ailleurs, il y a tout le travail que j'ai engagé avec quelques étudiants et étudiantes sur des publics. Et en particulier, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'étudier les circulations transculturelles au sein des publics racisés en diaspora. Voilà, donc, parce que je veux essayer d'analyser les choses en dehors des cadres nationaux. Hein. On a tendance, avec l'approche historiographique, à retomber dans les cadres nationaux. Moi, je pense que c'est pas du tout. Enfin, d'ailleurs, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je veux dire, il y a tout un tas de courants historiographiques qui s'affranchissent justement de ça. Et voilà. Et en jeu vidéo, je souhaiterais essayer à travers des micro-études, hein, dans un premier temps, parce que c'est compliqué. Et puis, il faut financer tout ça. Et puis voilà. Mais voilà, c'est les deux pôles, et notamment du côté des publics et des pratiques des publics, parce que c'est ce que j'ai pas fait dans ce livre, finalement.
Oui, puis on sent que ce sont les grands absents un peu de toutes les études qui existent. Alors, ça me paraît être une très bonne manière de conclure cet échange. J'ai juste reçu entre-temps un autre message de Mélissandre Monatus qui vous remercie d'avoir parlé du Kumbit du jeu vidéo qu'elle a organisé avec Muriel Tramis et Michael Newton. Donc, merci à vous pour ces échanges. J'invite vraiment de nouveau tout le monde à se procurer ce livre et c'est encore beaucoup plus riche que les échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui. Et voilà, merci Mehdi Darfoufi et puis merci à la Fondation d'avoir organisé cet échange. Je repasse la parole à Marie Villette qui a quelque chose à nous dire.
Merci Charlotte et merci à tout le monde d'avoir participé donc à cette séance des livres en dialogue. Le livre est donc oui effectivement disponible en librairie et également à la commande en ligne sur lcdpu.fr. La rencontre que nous avons organisée ce soir sera mise en ligne dans quelques jours sur la plateforme Canalu et sur le site de la FMSH. Je vous invite à notre prochaine rencontre des livres en dialogue qui aura lieu, nous l'espérons, en septembre et en présentiel. À la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, boulevard Raspail. Elle aura lieu autour de l'ouvrage collectif Jacques Derrida, La dissémination à l'œuvre. Et la soirée sera animée par le journaliste Sylvain Bourmeau, en dialogue avec Sarah Gwindani et Alexinous, qui ont dirigé l'ouvrage. Donc, je vous remercie une fois encore pour votre écoute. Merci Mehdi, merci Charlotte. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très, très bonne soirée.
Bon, en tout cas, voilà, merci pour ces échanges. Bon. J'avais préparé des choses que je n'ai absolument pas abordées. Voilà, parce que c'est aussi compliqué quand on part sur le. Mais par exemple, sur l'Arab Gaming, j'avais des choses à dire que je n'ai pas dites.
Maintenant, si vous voulez ajouter là maintenant quelque chose.
Oui, non, c'était c'est-à-dire que je passe plus de temps sur les polémiques, et forcément les polémiques ont davantage tourné autour de la représentation des Noirs dans le jeu vidéo, notamment parce que le débat est souvent configuré par ce qui se passe aux États-Unis et puis ça a des répercussions en France. Mais c'est vrai que, et ce sera l'objet du prochain bouquin en fait, hein, à travers cette question de l'orientalisme dans le jeu vidéo, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a tout un champ de recherche qui a émergé sur l'Arab Gaming et qui va du coup s'intéresser, comme on l'a fait avec les personnes noires dans le jeu vidéo, bah, qui va s'intéresser aux personnes arabes dans le jeu vidéo. Et donc, je voulais citer quelques exemples et parler aussi de l'e-sport, parce que j'en parle pas dans le livre, et dans la communauté e-sport, il y a énormément, énormément de préoccupations sur les questions de racisme, et en particulier d'un racisme bien spécifique, qui est le racisme qu'on appelle anti-asiatique en France, et qui, voilà, parce que c'est un jeu qui, historiquement, est, enfin, un jeu, une pratique qui, historiquement, est dominée par des joueurs essentiellement. Des joueuses asiatiques. Et donc, du coup, il y a plein d'histoires de racisme dans cette communauté. Et j'ai été sollicité encore récemment pour intervenir dans des manifestations e-sport sur la question du racisme dans l'e-sport. Et je leur ai dit, mais moi, je joue pas, enfin, je connais absolument pas le milieu de l'e-sport. Mais en fait, il faut en parler quand même. Mais c'est peut-être pas moi qui dois en parler. Mais effectivement, ça, c'est un enjeu vraiment à part entière. Et on voit que le questionnement vient de la communauté. Et ça aussi, ça vient. Contrebalancer les stéréotypes qu'on peut avoir sur les joueuses de jeux vidéo qui seraient aliénées ou etc. En fait, tous ces questionnements dont on parle, ça vient d'abord de la communauté vidéoludique.
D'autant que l'e-sport, si je me souviens ce que vous m'aviez dit quand on préparait cette rencontre, c'est un des domaines qui se professionnalise le plus et qui donc, y compris... voilà, confère des moyens matériels, des moyens de subsistance, etc., à ceux qui le pratiquent. Et qui... Donc, il y a un enjeu aussi tout à fait singulier.
Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui échappe finalement au débat parce que quand il y a des polémiques, c'est sur les représentations. Et donc, voilà, bah, c'est un trailer qui monte, etc. Donc, il y a une polémique, donc il y a des articles, donc il y a des débats sur les... etc. Ou alors, comme je dis dans le bouquin, c'est parce que je parle de mélancolie masculine blanche à propos de Red Dead Redemption. Alors là, ça fait une polémique, machin. Bon, mais en fait, le e-sport, c'est pas les représentations. C'est vraiment, voilà, les conditions... c'est le commentaire, par exemple. C'est tout le commentaire socio-numérique autour de l'e-sport, sur les forums, sur les vidéos, les gens qui interviennent, qui débattent. c'est les questions, les conditions de travail, de rémunération, etc. Et puis tous les stéréotypes associés au fait que bah, c'est de la compétition, et puis les Asiatiques, ils sont, c'est des machines, et puis nous, on est des sortes d'artistes en Europe. Et c'est tout ça. Mais ça échappe à tout le débat sur les
L'enjeu
représentations, et
économique du
l'essentiel du débat sur le
sponsoring.
racisme, c'est les représentations. Alors, moi, c'est mon truc, les représentations. Donc, voilà. Mais voilà, l'e-sport va montrer qu'il y a d'autres
Oui.
dimensions qui sont négligées, y compris par la recherche, en fait. Voilà, c'est.
Et parce que la recherche non plus n'est pas un vase hermétique non communiquant avec le reste de la société et porteuse de tous les rapports sociaux. Eh bien, c'était un ajout très, très intéressant. Je ne
Merci.
regrette pas d'avoir passé 5 minutes de plus, d'avoir prolongé cet échange. Merci encore pour ce livre et pour ce dialogue.
Ben merci pour les échanges, la lecture et tout. C'était
Oui,
voilà, c'était très sympa. Et puis bon bah ben, à la prochaine.
ouais.